Maintenant, un bon bois de casse.
Maintenant, un bon bois de casse. Maintenant, un bon bois de casse.
Bien, bonjour à toutes et tous. C'est Emmanuel Beltrando qui vient parler dans les micros cette fois-ci. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Alors Emmanuel, ton actualité directe d'Essen, c'est que tu sors donc le fameux jeu Atari, qui est un, comme on l'a vu avec, avec Gozu, qui n'est pas habituel, d'une découverte d'un auteur japonais. Tu peux nous en parler un peu plus.
Oui, alors Atari, c'est un jeu que j'ai découvert en novembre 2010, pendant le Game Market de Tokyo, donc à Tokyo, au Japon. Donc il y avait à peu près une centaine d'auteurs de jeux qui étaient là avec des prototypes ou des jeux auto-édités. Et parmi les jeux qui m'ont plu, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu-là, dont le nom japonais est Yabuna Nanoke. Et donc j'ai pris tout de suite contact avec l'auteur, on a discuté et on s'est mis d'accord pour que je puisse faire une édition, enfin avoir les droits sur l'Europe et les États-Unis.
Le jeu était déjà édité là-bas ?
Était édité, mais un peu différemment. Alors, le profil des personnages est le même. Après, les couleurs, tout le reste est changé, les iconos. Et le tirage japonais du produit était de 1000 exemplaires.
Okay. Donc, là-bas, on ne connaît absolument pas le marché japonais. C'est quoi ? C'est beaucoup ? C'est peu ?
Il lui en reste 400 au bout d'un an, donc il en a vendu 600. Au Japon, un jeu qui fait 1000 exemplaires en un an, c'est très bien. Les gros hits, ça va être 3000. Hein.
Okay. Donc ça veut dire que le jeu de société est toujours en train de se développer là-bas ?
Oui, tout à fait. Oui.
C'est quelque chose qui se développe, c'est-à-dire, ou c'est quelque chose qui est assez linéaire ?
La croissance au Japon est de l'ordre de 20 à 30% par an.
Au niveau du jeu ?
Au niveau du jeu de société, oui.
Ok, donc Atari, c'est quoi ? Il y a des petites silhouettes. Et les petites silhouettes en carton, on doit découvrir des choses et bluffer.
Tout à fait. Le principe d'Atari, c'est qu'il y a une scène de crime. Donc dans le jeu, il y a 8 silhouettes numérotées de 2 à 8 et une silhouette qui n'est pas numérotée. Et donc il y a une scène de crime avec 3 suspects, donc il y a 3 silhouettes face cachée, une victime, et chaque joueur a un témoignage, donc a devant lui une silhouette cachée dont il connaît la valeur. Il va regarder le numéro de la silhouette, il va la passer à sa droite, il va en avoir donc une seconde. Donc il va connaître 2 valeurs sur les 8 présentes. Le but du jeu va être de trouver qui est le coupable parmi les 3 suspects. Donc le premier joueur va avoir le droit de regarder 2 des suspects parmi les 3. Et il va voter sur lequel il pense être le coupable.
Sur base de 3 cartes alors, il n'a vu que 3 cartes à ce moment-là.
En fait il a vu le premier et le deuxième indice, et les 2 qu'il vient de regarder, donc il en a vu 4. Il a vu 4 cartes. Ensuite, les joueurs suivants vont toujours pouvoir regarder 2 profils, sauf le profil sur lequel le joueur précédent a misé. Donc miser sur une carte, c'est miser sur une carte, mais ça empêche aussi le prochain joueur de voir la valeur. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant un peu plus tard. Donc tous les joueurs misent, et à la fin, on retourne, et on regarde qui est le véritable coupable. Donc le coupable est toujours la valeur la plus haute, sauf si parmi les 3 suspects, il y a le 5. Si le 5 est présent, c'est la valeur la plus basse qui est le coupable. Même si le 5 est lui-même le plus bas, ça sera lui-même. Le suspect qui n'a pas de numéro ne peut jamais être coupable, quoi qu'il advienne. Ce qui se passe, c'est que tous les gens qui ont misé sur le bon coupable récupèrent leur pion. D'accord ? Tous les gens qui ont misé tout seul, donc si personne d'autre a misé sur le mauvais suspect, récupèrent leur pion mais face cachée. Donc ils ne pourront plus miser. L'intérêt du jeu, c'est lorsque plusieurs personnes ont misé sur le mauvais coupable, donc leurs pions sont empilés, et c'est le joueur qui est au sommet de la pile qui récupère toute la pile face cachée. Donc, les joueurs précédents ont perdu un pion. Mais à la fin du jeu, il faut avoir le moins de pions possible pour gagner. Donc on comprend bien que pour gagner, il ne faut pas trouver le véritable coupable, il faut induire en erreur les joueurs suivants, par rapport à son vote, par rapport au fait de cacher une carte en misant dessus, pour essayer de tromper les autres joueurs et qu'ils misent sur vous et ainsi mangent votre pion et le joueur qui a moins de pions à la fin de la partie gagne.
D'accord. C'est un jeu qui, de prime abord, quand on le voit, on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer, à quoi est-ce qu'on va jouer. Après 2 tours, on a vraiment pigé ce qui allait se passer. C'est ça qui t'a plu, c'est cette simplicité et cette profondeur de bluff ?
Alors, ce qui m'a plu, il y a 2 choses. Premièrement, il y a le fait que ce soit un jeu de bluff et de déduction. Parce que lorsqu'on est premier ou deuxième joueur, on va bluffer énormément. Mais lorsqu'on est troisième ou quatrième, on ne peut plus vraiment bluffer les joueurs suivants. Donc on est obligé de rentrer dans un système de déduction pour comprendre quel bluff ou non-bluff ont essayé de faire les joueurs précédents et où est-ce qu'il faut que je me place pour esquiver le coup et éventuellement le gagner. Donc ça, cet aspect-là était vraiment très intéressant. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le matériel en soi. C'est-à-dire que toute cette scénographie, cette mise en place avec, avec les suspects, la victime coupable, la manipulation des punchs en forme de bonhomme, toute cette scénographie m'a vachement plu. C'était en plus, c'est un matériel énormément épuré. À part le profil, le numéro, il n'y a rien dessus. Donc on est vraiment dans un design très simple, très épuré, un concept de jeu très facile d'accès et pourtant super profond. Donc exactement ce que je recherchais en tout et pour tout.
Tu l'as dit, le jeu dans sa version japonaise ne s'appelle pas Atari. Pourquoi faire ce changement de nom ?
Alors le jeu dans la version japonaise s'appelle Yabunana no Ke, qui est en fait un rappel à un vieux conte, une histoire japonaise, où justement on trouve une personne qui est assassinée. Il y a des suspects. Et en fait, la police interroge les témoins. Et en fait, ils n'arrivent jamais à attraper le suspect parce que les informations des témoins varient trop d'une façon à l'autre. Donc c'est en fait, la version japonaise, c'est un petit clin d'œil à un conte qui n'est déjà pas connu chez nous. Et en plus, le nom Yabunana no Ke, c'est juste impossible à vendre. Donc on a voulu trouver un nom qu'on pouvait facilement placer pour la France, l'Europe, les États-Unis. Et donc après quelques semaines de recherche, on est tombé sur Atari, H-A-T-A-R-I, qui signifie en japonais bluffeur. Donc on s'est dit, bah voilà, Atari, ça sonne bien à nos oreilles parce qu'on a l'habitude du jeu vidéo et autres comme ça. C'est une consonance facile, puis la signification directe de bluffeur tourne bien avec le jeu, quoi.
Quand tu dis on a voulu, ça veut dire que vous êtes plusieurs chez Monster Games maintenant ?
Alors déjà, on a voulu, moi j'ai un associé. Et puis je travaille beaucoup avec mon distributeur, je travaille avec mon chef de projet chez Asmodée. Donc
c'est un projet qui se mûrit ensemble vraiment. C'est pas Monster Game de son côté qui choisit, qui vient le pousser au distributeur. Il y a quand même une concertation avant.
Oui, bien sûr, il y a une concertation avec. Alors j'ai décidé tout seul de le faire parce que tout de même c'était un coup de cœur. Après, il y a de toute évidence dans tous les cas, il faut une concertation avec un maximum de monde pour essayer d'avoir un avis le plus large possible. Donc de toute manière, chez Asmodée, tout le monde avait aimé le jeu. Quand j'ai présenté, proposé Atari comme nom, c'est passé tout seul aussi. Donc sur ce produit-là, j'ai pas eu d'opposition, mais c'est toujours bien de savoir qu'on part dans la bonne direction, quoi.
Alors, on le comprend, Gozu est un auteur japonais.
Japonais et coréen, oui, moitié
coréen. Atari est coréen. Atari est un auteur japonais. Quelle est ta vision du monde ludique là-bas ? Est-ce que, donc on le disait, c'est 1000 jeux, c'est déjà pas mal en termes de production, mais à quoi ressemble le jeu de société dans ces pays-là ?
Déjà, c'est un marché qui est en train de naître ou de renaître pour la Corée du Sud, parce qu'il y a eu une grande époque, mais c'est un peu passé. Donc c'est un marché qui naît depuis 2-3 ans, un peu plus présent aujourd'hui au Japon qu'en Corée du Sud, mais avec une croissance très importante. Avec toute une partie de la population entre 17 et 30 ans qui ont connu les jeux vidéo étant jeunes et qui sont en train de switcher un petit peu sur le jeu de société, avec l'apparition de plus en plus de cafés, de board game cafés. Donc les gens peuvent aller jouer entre eux. Parce qu'en fait, les gens en Asie ne se reçoivent pas. C'est-à-dire qu'on va pas, on s'invite pas chez son voisin pour faire une soirée. Donc les gens se rejoignent dans des board game cafés et jouent de plus en plus dans les board game cafés. Voilà, donc le marché se développe. La vraie tendance, c'est le fait que les jeux ne prennent pas de place, parce que comme ils transportent les jeux avec eux pour aller dans des endroits, il faut que ça prenne pas beaucoup de place. Mais c'est un marché très intéressant à surveiller. En termes de produits, il est composé de 80-90% de produits européens et américains. Donc ils ont une petite production pour l'instant parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en leurs produits ou les moyens d'éditer leurs jeux. Mais c'est vraiment un marché à surveiller parce que je pense qu'en termes de game design, il y a des belles choses qui vont arriver, quoi.
Ça veut dire qu'il y a très peu de sociétés d'édition japonaises ou coréennes ou...
Oui, très très peu, oui.
Ça veut dire que donc Monster Games va continuer à dénicher du jeu de ce côté-là ?
Oui, parce qu'on a l'année prochaine, sur les jeux qu'on sort, il y en a... Alors on sort une gamme de jeux qui a été signée en Corée du Sud, donc là, auteur sud-coréen, édition originale coréenne.
Gamme de jeux, là ?
Une gamme, ouais.
C'est-à-dire ?
C'est 4 jeux pour enfants, qui sont vraiment très 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 bien, et dont j'ai complètement craqué. Donc c'est fait à 90%, donc on attend encore, on doit encore les montrer à quelques acheteurs en France pour vérifier que ça passe bien. Donc ça, c'est une gamme de jeux pour enfants sud-coréennes, donc ça vient d'auteurs, etc. Et les deux autres jeux qu'on a en développement pour 2012 sont deux jeux d'auteurs japonais-coréens.
On peux en dire un peu plus ou c'est encore trop tôt ?
Il y en a un, c'est un peu trop tôt, parce que pour l'instant, on ne peut pas trop en parler. Et l'autre, c'est un jeu de plateau, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est un jeu de plateau de commerce galactique. Voilà.
Ok, il y a pas mal de jeux au niveau science-fiction qui sortent pour l'instant. C'est une vague qui a l'air de prendre forme, ou ça veut dire que 2012 sera... On peut dire que 2011 est un petit peu japonisant, on va dire, au niveau des jeux qui sortent. Ça veut dire que l'année prochaine, on verrait plus du galactique ou du cosmique ou... C'est difficile.
Je sais pas du tout. Nous, on a choisi le terme galactique parce que la volonté de l'auteur était de faire un jeu très spécifique et on ne pouvait pas inclure le thème sur la Terre ou quelque chose comme ça. Il fallait vraiment sortir de d'autres univers pour... Parce que l'essence même du jeu, que je peux pas dire là, fait que c'est pas faisable dans notre univers. Donc il fallait vraiment créer ça ailleurs, quoi.
Ça, c'est les sorties 2012.
Ouais, 2012, donc il y a le premier jeu qu'on annonce pas pour l'instant, parce que sinon ça va être dur à gérer. Il y a ce jeu de plateau dont le nom pour l'instant est Stone of Jordan, mais qui changera très certainement. On a la gamme de jeux pour enfants. Et sinon, le prochain jeu à sortir en février est un jeu américain, donc pas asiatique. Et ça s'appellera Super Lipopex. Ça sort en février pour Cannes.
On avait parlé de Texas Zombie un moment, non ?
Texas Zombie devrait sortir en fin d'année, si tout va bien. Mais comme il y a des problèmes de fabrication en ce moment en Europe, on n'est pas sûr à 100% des délais. Donc on va dire entre décembre et janvier.
Merci Emmanuel Beltrando. Et à très bientôt pour la suite, puisque effectivement ça va dérouler.
Merci à vous.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur boitcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.